Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission de sport. Aujourd'hui on parle de sport, mais on parle de coups de pied, de coups de poing. Vous allez tout connaître sur ce sport et l'invité qui est avec moi dans les studios. On revient dans quelques instants, restez avec nous. Aujourd'hui, on parle de sport de combat, mais pas n'importe quel sport. Attention, on parle de karaté et j'ai la chance d'avoir une très grande sportive qui a été récemment championne de Nouvelle-Aquitaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est Laura qui est avec moi.
C'est ça, tout
Salut
à fait.
Salut Laura.
Bonjour.
Comment ça va?
Extrêmement bien.
Merci d'être là.
Merci à toi, en tout cas, de bien vouloir m'inviter.
C'est un grand plaisir. Et puis, championne de Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire ce que ça veut dire?
C'est ça, voilà.
Premier titre?
Premier titre sur la Nouvelle-Aquitaine, en tout cas.
D'accord, sur la Nouvelle-Aquitaine, mais ça s'arrête pas, c'est pas fini. Hein.
Et non.
Il y en a d'autres qui arrivent, là.
Tout à fait.
Les championnats de France, bientôt.
Exactement.
Mais on va y revenir. Laura, j'aimerais connaître un petit peu ton parcours. On aime bien connaître un petit peu la genèse de l'invité qui passe par chez nous. Avant d'arriver au karaté, c'était qui, Laura?
avant une très 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 petite fille, parce que j'ai commencé assez jeune.
C'est vrai?
Voilà.
D'accord.
Donc voilà, après j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai fait aussi d'autres sports, mais effectivement je dois dire que le karaté berce ma vie déjà depuis très longtemps. C'est ça.
D'accord. Comment on tombe dans ce sport-là? Comment on y arrive? Par quel biais?
Alors pour ma part, probablement parce que ça devait être déjà un petit peu dans mes gènes, c'est-à-dire que j'ai démarré grâce à mon papa.
D'accord, lui donc, était déjà implanté dans le karaté.
Voilà, déjà bien implanté, c'est ça. donc c'est vrai que j'ai eu finalement cette curiosité aussi un peu malgré mon jeune âge, et puis j'y suis restée. Donc finalement dans les gènes, mais surtout une passion que j'ai découverte et qui m'a jamais quittée.
C'était karaté et pas autre chose?
C'était karaté et pas autre chose. Après, voilà, je suis ouverte sur d'autres sports, j'adore, mais je dois dire que ces sensations, cette passion, effectivement, il n'y a vraiment que le karaté qui me l'anime.
On commence à quel âge, généralement?
En général, ça peut commencer autour de 4-5 ans, ça va dépendre des clubs, mais autour de 4-5 ans.
À 4-5 ans, on peut déjà se mettre au karaté?
C'est ça.
D'accord. Et si on en a 84 comme moi, ça peut le faire ou pas?
Théoriquement, jusqu'au bout.
D'accord.
On adapte.
On adapte, d'accord. Parce que j'ai mon réalisateur, c'est un champion. Hein. Je t'en parlais tout à l'heure en off. Vincent Siméon, lui, il a une technique imparable. Il arrête les coups de pied avec sa mâchoire. Alors après, c'est une technique comme une autre. 6 ans, comment ça démarre le karaté à 6 ans? On apprend quoi? Comment ça se passe?
Alors en général, on va quand même essayer de développer beaucoup tout ce qui est autour de la neuromotricité. On est quand même pas mal dans le développement de l'enfant. Donc on va quand même adapter un peu les choses. Moi j'ai quelques souvenirs d'avoir fait des petits sprints, le facteur n'est pas passé le premier qui touche pour travailler un peu les réflexes. On faisait aussi beaucoup, voilà, ça vaut ce que ça vaut, la brouette. Hein,
ah oui, la brouette, on le fait dans tous les sports ça.
C'est ça, donc c'est vrai que bon, bien évidemment il va y avoir des techniques de karaté que les entraîneurs vont glisser, mais derrière ça, on va développer aussi en fonction des athlètes qu'on va avoir et de leur jeune âge. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour développer justement les repères dans l'espace et le schéma corporel pour ces enfants, notamment à partir de 4-5 ans où on est déjà en plein apprentissage.
Ouais, on les amène au karaté beaucoup par le jeu, hein. C'est un peu ça comme dans tous les sports.
C'est ça, voilà.
On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on va le dire, tu es affilié, tu es athlète de la SPTT Limoges,
oui,
si je dis pas de bêtises. Tu as toujours été dans ce club?
Alors non, de base je suis originaire de région parisienne.
D'accord.
Donc voilà, mon papa qui était notamment donc mon entraîneur.
Ah d'accord.
Partie. Et puis voilà, dans le cadre de mes études, j'ai été amenée à être sur Limoges.
Belle région de Limousin.
Exactement, j'y suis restée, la preuve.
D'accord.
Et donc coup de cœur, ouais, pour ce club qui partageait un peu les mêmes valeurs que j'avais pu avoir auparavant dans mes anciens clubs.
Et justement, d'avoir le papa comme entraîneur, c'est pas trop compliqué?
Ah, c'est pas facile toujours à gérer. Je dois dire qu'aujourd'hui, il a peut-être repris un peu plus son rôle de papa.
D'accord.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça nous a valu un peu quelques conflits lors des compétitions, effectivement. Mais bon, je pense que je lui dois beaucoup, bien évidemment, notamment par rapport à mon parcours aujourd'hui.
Oui, parce qu'on, justement, avec des gens d'expérience comme lui, on progresse forcément. Alors, ça nous plaît pas forcément les reproches qu'on peut avoir des proches, mais c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire progresser.
Oui, c'est ça. Et puis bon, j'avais la chance d'avoir justement aussi un entraîneur qui me connaissait vraiment presque par cœur. Donc, il n'y avait pas que du mauvais, ça c'est sûr que non.
Qu'est-ce qu'il nous enseigne le papa au début? C'est pareil, c'est du jeu. Comment il nous y amène au karaté d'ailleurs?
Alors, j'ai eu plusieurs entraîneurs. Hein. Je n'ai pas commencé tout de suite avec lui.
Ah, donc, il y a eu d'autres entraîneurs avant.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, j'avais, on va dire, un entraîneur principal. Et on va dire que mon père était en consultant. Il me faisait réviser à la maison. Donc voilà. Après, par la suite, effectivement, de plus en plus, notamment quand j'ai commencé les compétitions un petit peu plus tard, là, par contre, où effectivement, ça a été quand même beaucoup plus mon entraîneur jusqu'à être quasiment exclusivement mon entraîneur.
Il l'est encore aujourd'hui ?
À distance.
C'est pas mal.
Non, on va dire qu'aujourd'hui, il a quand même plus ce rôle de confident. Et je dois dire que là, notamment, lors de la dernière compétition, là, ouais, quand j'ai su que j'étais en finale, et alors après, quand j'ai remporté le titre, bien évidemment que c'est la première personne que j'ai contactée.
Forcément. Il en a pensé quoi ? Ça a été quoi les premiers mots ? Le sport dont on est friand et on a en plus son enfant, sa fille, pour le cas, qui est une championne de Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi son ressenti ? C'était quoi les premiers mots ?
Je crois que c'est même pas des premiers mots, c'est, je crois que c'est surtout des glouglous.
Des glouglous, ouais, c'est pas mal ça.
Donc vraiment c'était surtout beaucoup d'émotions et puis bon, il s'est vraiment... toutes les concessions et tout ce travail qu'il y a derrière. Donc bien évidemment que je pense qu'un papa fier, c'est peut-être le mot qu'on peut employer.
Ouais. Tu l'appelles encore quand je suis pas sur des difficultés, des choses comme ça, ou si tu as envie d'analyser une performance, est-ce qu'encore tu l'appelles et tu demandes conseil ou pas du tout?
Ouais, bien sûr.
C'est important.
Ouais, c'est important. Et puis voilà, il y a un échange qui est possible. Donc forcément, non, bien sûr qu'il est toujours consultant d'une certaine manière.
Tu te rappelles de tes premiers pas sur le tatami et tes premières compètes ?
Alors, premier pas sur le tatami, oui, parce qu'en plus, j'étais avec mon frère, avec mon grand frère.
Ah, ouais.
J'ai commencé avec mon grand frère, donc...
Tu lui as mis quelques coups de...
ouais, c'est vrai qu'on s'est quelque peu un peu entraînés, voilà.
D'accord, c'est bien, c'est bien.
On essayait quand même de faire en sorte à ce que ça reste sur le tatami, quand même. Mais donc, ouais, premier pas avec mon grand frère, et après, oui, première compétition, ça c'est sûr. Je me rappelle de mes premiers pas, c'est toujours très impressionnant, surtout quand on commence assez jeune, de passer devant tout le monde, un public, enfin, c'est une belle école de vie aussi. Moi, ça m'a en tout cas beaucoup appris et je pense que ça m'a aidé d'une certaine manière, même après dans le cadre de mes études, les oraux et autres. Donc c'est vrai que oui, les premiers pas avec beaucoup de monde, des arbitres, c'est assez impressionnant. Je crois que celle vraiment dont je me souviens le plus, qui a été le plus impressionnante, c'est quand j'ai fait ma première Coupe de France, mon première très très grosse compète. À Paris, une pièce énorme. Il y avait aussi justement des journalistes. Enfin, ça m'avait assez. Je crois que j'avais 11 ou 12 ans.
Donc, oui, c'est impressionnant à cet âge-là.
Très impressionnant. Donc ouais, mais des super souvenirs. Et aujourd'hui encore, finalement, je suis toujours aussi impressionnée quand même. Hein.
Est-ce que tu te rappelles de la première compète que tu as gagnée ?
Oui.
Parce qu'elle est marquante normalement.
Et oui, justement, c'est elle justement qui m'a permis en plus de me qualifier sur la Coupe de France. Donc oui, je me rappelle de. J'avais fait 3e. En fait, finalement, j'ai fait un peu tous les postes, hein. C'est-à-dire que j'ai fait 3e 2 années consécutives.
D'accord.
Ensuite, après, j'ai fait 2e.
Bien, donc, ça progresse.
Première, exactement. Ouais. Donc, j'avais fait une première finale, donc déjà, c'était quelque chose. Et puis après, j'ai eu la chance de faire première. Et puis, première. Donc,
toujours première.
Toujours première.
C'est pour ça qu'elle est avec nous dans l'émission. Elle est toujours première, comme nous, on est numéro 1. Justement, c'est quoi un peu les règles du karaté ? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a des auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément. C'est quoi les bases du karaté, les règles de base ?
Alors en fait, il va y avoir deux styles, on va dire, de karaté et de compétition. C'est-à-dire qu'on va avoir...
Parce que moi, je mets des coups de pied, mais partout, n'importe comment. Hein.
On va avoir des compétitions, en tout cas, dites de combat.
Ouais.
Donc avec effectivement un adversaire contre un autre, donc avec un système de points en fonction des attaques.
Alors là aussi il y a des règles, hein. On ne fait pas n'importe quoi.
Théoriquement, il y en a quand même quelques-unes.
On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux par exemple, c'est interdit.
Non, c'est limité, ça peut arriver, mais théoriquement ça peut être sanctionné quand même. donc des compétitions de combat et ensuite on va avoir aussi des compétitions dites, on va dire, un peu plus techniques. C'est-à-dire que là on va parler de kata, voilà. Donc moi c'est ce qui me concerne aujourd'hui. Donc c'est un ensemble, comment dire, de différentes techniques. C'est un peu comme une chorégraphie qui correspond à un combat, qui correspondra à un combat.
Est-ce que je peux dire que c'est un combat un peu virtuel ? C'est ça, dans le vide ?
Tout à fait.
D'accord.
C'est ça, voilà, parce que c'est quand même une prestation qui est individuelle. Après, qui peut se faire en équipe, où justement on va avoir cette partie un peu de démonstration avec vraiment un combat.
D'accord.
Mais en tout cas, effectivement, ouais, c'est un combat dit plutôt virtuel.
Alors, si je dis pas de bêtises aussi, lors de ce combat virtuel, on part d'un point et il faut y revenir à chaque fois. C'est un peu ça, non ?
Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a certains katas où on va pas forcément pouvoir réatterrir, on va dire, au même endroit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on se repositionne à cet endroit, parce qu'il y a toujours un rituel, on va dire, avec des saluts. C'est pour ça qu'on est certes sur un sport de combat, mais au-delà de ça, on est surtout sur un art martial. Ce qui,
un art martial, ça c'est important.
C'est ça, qui est un peu différent de d'autres sports. Et donc on va avoir ce salut, effectivement, qu'on va refaire à tel endroit, sortir du carré rouge, dans la majeure des cas quand il est rouge. Mm-hmm. Donc voilà, donc on revient à un point de départ, mais on finit pas toujours non plus au même endroit.
D'accord.
Et donc à l'issue de ça, donc on a en fait différents arbitres qui vont voter. Il y a un système de points, pareil, une note finale. Et en France, ce qui se fait beaucoup, c'est les hauts drapeaux. C'est-à-dire qu'au coup de sifflet, il va y avoir un drapeau soit rouge, soit bleu, en fonction de notre ceinture, pour nous départager. Et donc, bien évidemment, plus de voix, c'est la victoire.
Et si le drapeau est rouge, ça veut dire quoi ?
Alors, en fait, on est toujours face à une autre personne qui va être ceinture bleue et une autre ceinture rouge.
D'accord.
Donc, les drapeaux vont être en rapport simplement avec la personne qui, selon les arbitres, a fait une prestation meilleure.
Au niveau des combats, justement, il y a des règles bien établies aussi, c'est-à-dire qu'un coup de pied compte un point, c'est ça ? Il y a le coup de pied, enfin, il y a le coup de poing aussi au corps, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas le droit de viser la tête ?
Alors, on a le droit de viser la tête, par contre, il doit y avoir du contrôle. On n'est justement d'accord. Pas censé trop arrêter avec la mâchoire, comme ton collègue.
Non, il adore ça. Après, il médite, il m'a dit. Voilà.
D'accord. Voilà. Bon, après, voilà, c'est un choix. Donc, théoriquement, comme on a en tout cas sur le karaté, en tout cas traditionnel, on n'a pas de protection, notamment au niveau de la tête, on n'a pas de casque. Normalement, on est censé avoir un contrôle relativement absolu. Pareil pour les coups de pied, mais il y a une touche quand même qui est faite. Donc,
il y a une touche importante avec le pied quand même qui est faite.
Voilà, effectivement, on va dire qu'il faut quand même marquer le point maintenant sans décrocher la mâchoire, effectivement, de son adversaire.
Oui. C'est du karaté Shotokan, c'est ça ?
Alors, pour ma part, Shotokan. Après, on va avoir effectivement d'autres styles. Après, dans les compétitions, il y a des compétitions où on est vraiment tout style, comme celle, par exemple, que moi, je fais. Il y a certains styles qui font, par contre, des compétitions essentiellement de leur style à eux. Ça va dépendre. Mais en général, c'est tout style confondu, combat comme kata.
Kata, on est dans un environnement vraiment féminin, ou alors on se mesure justement masculin, ou voilà, c'est limité ?
Non, alors on est toujours, ouais, voilà, c'est les catégories, donc soit féminin, soit masculin, voilà. Et après en combat, on va retrouver aussi les catégories de poids. Et bien évidemment, il va y avoir aussi les catégories d'âge.
D'accord. Est-ce que le karaté, à toi, t'a servi dans ta vie personnelle ? Alors, je parle pas de... Alors, ça peut aider dans la rue, mais dans ta vie à toi, par exemple, à être plus sereine lors d'examens, ou voilà, des choses comme ça. Est-ce que ça t'a servi ? Est-ce que ça t'a apporté une certaine sérénité ?
Alors, je crois que surtout, ça m'a appris à me canaliser.
Ouais, c'est bien aussi.
Parce que je pense que le sport, c'est un petit peu aussi pour ça que mes parents m'ont inscrite dès mon plus jeune âge. Après, effectivement, du fait de cet art martial, il y a des codes aussi qu'on nous apprend, notamment le respect, l'humilité, la bienveillance.
On dit que c'est une école de la ville, karaté.
Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, justement, oui, bien sûr. Je pense que, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup. Après, comme on disait tout à l'heure, le monde de la compétition, les démonstrations, on passe devant plusieurs personnes, ça nous apprend quand même aussi, justement, par rapport aux différents oraux, peut-être qu'on va pouvoir avoir dans le cadre de nos études, prendre la parole. Donc oui, mais effectivement, surtout sur l'aspect des valeurs que ça a pu, en tout cas, qui ont pu être véhiculées, effectivement,
voilà. Tu restes avec nous, on va continuer à parler de karaté, on va juste faire une petite pause musicale et on revient dans quelques instants. Restez avec nous.
Comme tout le monde, j'ai un but, comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est à tort? Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en battre. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille. Il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif. Que j'arriverai à rien si je pense négatif.
Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. si la vie met des coups,
c'est pour apprendre à encaisser,
pour nous donner une leçon
ou pour nous faire progresser.
Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit,
j'attends que la tempête passe
pour entrevoir une éclaircie.
Puis je me remets en question
et je relativise
et je repars sur la route
avec de l'espoir plein les valises.
Voilà.
Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire,
je continue à aller de l'avant.
Et qu'il se réalise ou pas,
j'irai quand même jusqu'au bout.
On verra bien à l'arrivée
si ça en valait le coup.
Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui, c'est vrai,
faudra que je sois fort et courageux.
Je devrais
ignorer les envieux et les rageux.
Je lèverai
les yeux vers le ciel même s'il est orageux.
Oui, je ferai
tout mon possible car lourd est l'enjeu.
Je mettrai tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi.
Alors je verrai bien, je fais mon chemin demain, on verra.
Le chemin est long.
On parle toujours de karaté avec Laura Dynamo. Dynamo, c'est ça?
Oui,
j'ai du mal. Hein.
Dimano.
Dimano, voilà, que je dise pas de bêtises. Attends, une petite gifle. Voilà, ça y est, ça t'apprendra. On parle toujours de karaté. Tout à l'heure, on parlait justement de club. Donc, tu es à la SPTT Limoges aujourd'hui. Tu as été championne de Nouvelle-Aquitaine. Ça représente quelque chose. C'est quoi le ressenti? Ça a été quoi les commentaires de ton club, justement? Ils t'ont dit quoi? Ils devaient être fiers, je suppose.
Ben un petit peu finalement pareil que mon papa, hein, à nouveau, sur l'investissement, sur la persévérance et voilà, le travail un peu acharné, effectivement.
Il faut être acharné pour être championne de toute façon. On n'a rien sans rien.
Voilà, exactement. On n'a pas trop le choix. Donc non, les commentaires, c'était surtout, comment dire, un podium mérité au vu du travail engagé. Donc non, ils étaient relativement contents pour moi. Donc,
comment ça se passe pour être championne de Nouvelle-Aquitaine? Il y a plusieurs combats, c'est un championnat. Comment ça fonctionne dans le karaté?
Alors, on va avoir un enchaînement de différents tours. En fait, à chaque tour, effectivement, on essaye de le remporter pour pouvoir continuer. Là, la réglementation a un peu changé cette année. Ils ont mis en place ce qu'on appelle les premières et deuxièmes divisions. Donc, c'est-à-dire que...
Série A, série B, c'est ça?
Ouais, c'est un petit peu ce même principe-là. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait essayer quand même de remporter, en tout cas, au moins le premier et deuxième tour, en tout cas, pour pouvoir rester en première division. Autrement, sinon, on était relayé en deuxième division, donc ça faisait presque un peu une deuxième compétition à réengager. En tout cas, bon, l'idée, voilà, c'est de remporter, en tout cas, chaque tour, et dans l'idéal, jusqu'à la finale.
Et d'être championne de Nouvelle-Aquitaine.
C'est l'idéal.
Et toi, du coup, parce que je t'ai pas posé la question, mais ça t'a fait quoi d'être championne de Nouvelle-Aquitaine, justement?
Franchement, beaucoup de balles à réaliser. Je me rappelle me retourner vers mon coach en me disant, mais c'est...
Est-ce que c'est vrai?
C'est moi, en me tapant, en me pinçant à moitié.
On le réalise pas tout de suite.
Non, et puis en fait on est tellement tellement concentré, on enchaîne les tours, on est contente de gagner, mais on se dit allez, on reste concentré, on continue, que effectivement quand on va dire c'est fini de se dire et du coup non c'est bien.
Mais
moi
c'est bien moi, je suis championne.
C'est ça.
Le karaté dans le monde féminin, ça progresse, enfin il y a de l'engouement au niveau du karaté.
Alors ça progresse quand même, moi je le vois en plus au fur et à mesure des années, je trouve quand même que effectivement on a de plus en plus de pratiques féminines. Après quand on regarde un peu les pourcentages, notamment via la fédération, on est apparemment sur du 65-35.
Ah oui.
donc effectivement on a quand même probablement quand même un peu plus une pratique masculine, mais quand même on remarque quand même beaucoup de participation féminine, donc c'est plutôt cool.
C'est plutôt encourageant.
C'est ça.
T'es quelle ceinture d'ailleurs, parce qu'il y a des ceintures au karaté?
Oui, tout à fait.
Eh oui,
Donc
Et il y a des barrettes, si je dis pas de bêtises, c'est ça, non? Je sais pas,
oui,
si c'est... Ouais, parce que ça change tellement que...
C'est ça, oui, effectivement, on peut rajouter des barrettes. Après, autrement, c'est un système de couleurs jusqu'à la ceinture noire. Et à l'issue de la ceinture noire, on passe après ce qu'on appelle des danes, donc, on va dire des niveaux de ceinture noire. Et après, même par la suite, hein, bien sûr, il peut y avoir même encore des modifications, c'est-à-dire qu'on peut être ceinture blanche et rouge à partir
du... Là, ça veut dire qu'on est...
Ouais, ça commence un petit peu à bien s'élever.
On commence à maîtriser le karaté, on va dire.
Un petit peu, ouais, quand même, on va dire un petit peu.
Championne de Nouvelle-Aquitaine, quels sont les prochains objectifs pour toi ?
Mes prochains objectifs, déjà, et pas des moindres, championnat de France, sur fin mars, à Lille.
À Lille,
voilà.
Très bien.
Et donc après, ma devise, comment dire, vers l'infini et l'au-delà.
Oui,
donc,
très connu.
Donc voilà.
aux portes de l'équipe de France, j'ai ouï dire hein, que... Tu étais, voilà, tu frappes à la porte. Est-ce que c'est vrai?
C'est vrai, ouais, j'y travaille.
Tu travailles.
Très dur,
j'y travaille. T'as un pied dedans, soi-disant.
C'est ça, j'ai un pied dedans. Il va falloir maintenant réussir à mettre le deuxième.
À mettre le deuxième, ouais. c'est quoi la différence de niveau quand on est aux portes de l'équipe de France? Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, tu travailles aussi avec des encadrants de l'équipe de France.
C'est ça.
C'est quoi le décalage avec le niveau régional, on va dire, parce que championne de Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu champion régional, c'est un peu ça.
C'est ça.
C'est quoi la différence de qualité de... Est-ce qu'il y a plus de force? Est-ce qu'il y a plus d'investissement? Est-ce qu'on travaille deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus, dix fois plus quand on est au port de l'équipe de France?
Ah ben, disons qu'il va y avoir encore plus de compétitions déjà aussi internationales, hein, puisque c'est un peu l'intérêt aussi de faire partie de l'équipe de France. Après, il peut y avoir aussi un engagement plus en équipe. Donc effectivement, déjà, ça veut dire redoubler aussi un peu au niveau des échéances compétitions, également aussi au niveau des entraînements, puisque bon, parfois, il peut y avoir des stages sur une semaine complète, 3-4 jours. Donc effectivement, ça fait encore plus de rencontres. Et puis, ben oui, bien évidemment, ben, pour y rester, c'est un peu un CDD. Hein, donc, il faut quand même garder ça. Enfin, avoir la place, c'est bien, mais la garder, c'est aussi
encore mieux.
Difficile. Donc, effectivement, un engagement qui va être encore plus important.
Comment on fait pour sensibiliser les membres de l'équipe de France? Pour dire, ouh, je suis là, j'existe.
Ben, on aurait dû les inviter.
Ben, c'est vrai.
Non, de toute façon, après, c'est toujours un ensemble de choses. Hein, donc,
les exploits parlent, de toute façon.
Voilà, effectivement, ça va toujours être aussi, bon, bah, bien évidemment, les podiums. Et puis, bon, bah, après, l'investissement qu'il y a derrière. Hein, ce qu'ils nous disent, en tout cas, le plus, effectivement, c'est aussi l'évolution. Un athlète qui continue d'évoluer et qui s'investit, bien évidemment, va avoir aussi plus de chances. Et puis, bon, bah, bien sûr, les victoires qui, bien évidemment, vont pouvoir après aboutir après à.
Qui compte énormément au niveau du palmarès, c'est ça. Et pour pouvoir justement leur dire, voilà, je suis là et j'existe et je fais de belles perfs.
C'est ça.
C'est combien d'heures d'entraînement pour une athlète comme toi par semaine?
En général, autour de 5-6 entraînements semaine, donc environ 2 heures. Donc,
oui. 2 heures tous les jours?
Parfois, 2 fois dans 2 entraînements par jour, ça va dépendre.
Ah oui, effectivement, c'est pas fait pour nous, Vincent. Il faut qu'on reste derrière notre micro. Ah oui, quand même.
Quand on aime, on ne compte pas, apparemment.
C'est ce qu'on dit, ouais. Donc, 6 fois par jour? Ça, c'est hors combat.
Par semaine.
Par semaine, pardon. Ouais. Je suis fatigué.
Faut que je travaille aussi un petit peu quand même.
Oui, il faut travailler un petit peu, exactement. Ça, c'est oui, par semaine. Sans compter les combats quand tu te déplaces et tout ça. C'est encore en plus, ça.
Oui, bien sûr. D'accord. Ça, c'est en plus. Tout
d'accord.
À fait.
Comment, aujourd'hui, donc, tu es championne de Nouvelle-Aquitaine, tu parlais tout à l'heure, c'est le championnat de France hein, qui est en vue. Tu connais un peu déjà les adversaires qui sont dans... Parce que je suppose que c'est par catégorie, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Tu connais déjà les adversaires potentiels que tu peux avoir pour ce championnat de France?
Oui, bien sûr. Il y en a quand même quelques-unes.
Faut leur faire casser, là.
Il y en a quelques-unes que je rencontre, certaines qui sont aussi des amis. Donc, en dehors de ça, parce qu'effectivement, on a beau avoir, comme on dit, voilà, des adversaires en dehors des tatamis. De toute façon, quoi qu'il arrive, bien évidemment que ça reste surtout, ça reste des amis et des camarades parce que, au fond, faire partie de l'équipe de France, c'est de représenter la France. Donc, en règle générale, on va la représenter ensemble. Donc bon, au-delà d'être adversaire, on est surtout camarades et amis.
On est plus solidaires dans le sport féminin? On est plus ensemble ou pas du tout? C'est comme chez les mecs, d'ailleurs.
Moi, je pense que c'est relativement sensible quand même. Hein. Je vois les garçons comme ils peuvent être ensemble. Non, je trouve qu'on est relativement tous solidaires ensemble. Et puis même femmes et hommes ensemble, hein, puisqu'on partage les mêmes galères, les mêmes concessions et les mêmes joies. Donc non, il y a quand même, on est vraiment comme une famille. Un peu.
Aujourd'hui, tu partages un peu cet univers de l'équipe de France. On le disait tout à l'heure, tu es aux portes de l'équipe de France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des champions, des championnes de qui tu es proche et qui te conseillent aussi de temps en temps ou toi, tu te permets d'aller les voir justement pour avoir quelques conseils?
Oui, ça peut arriver, parce que justement, là, sur, en général, une à deux fois par mois, donc je me déplace sur les centres d'entraînement nationaux, donc soit à Paris, soit à Montpellier.
Ça, c'est des rassemblements obligatoires, c'est ça?
Alors, c'est vivement conseillé, parce qu'en règle générale, bien sûr, si on arrive, on est en fait sélectionné pour pouvoir y accéder. Donc, bien évidemment que, bon, bah, pour pouvoir continuer à y accéder, bah, le mieux, c'est quand même d'y aller. Et puis, c'est des entraînements de qualité et à haut niveau. Donc, chose que des fois, justement, en local, on peut ne pas forcément avoir accès. Donc, on essaye de, quand même de, d'être là à ces rendez-vous. Et ça nous permet aussi, des fois, justement, d'avoir quelques membres de l'équipe de France qui s'entraînent avec nous et de, justement, ben bah, oui, effectivement, pouvoir échanger avec eux, avoir des conseils. Donc, à ce moment-là, effectivement, des fois, ça m'arrive d'en avoir de leur part.
Alors, toi, tu es spécialisé dans le kata, c'est ça, si je dis pas de bêtises?
Oui.
C'est vraiment la branche où tu veux rester. Le combat ne t'attire plus du tout?
Alors, si, si.
Si, que... si, tu veux quand même mettre quelques coups de pied, quand même?
Non, c'est-à-dire qu'avant, je faisais effectivement les deux compétitions.
D'accord.
Et puis bon, à un moment donné, j'ai fait un choix parce que bon, c'est assez chronophage, donc je peux difficilement faire les deux. Mais je continue quand même un peu à faire toujours un petit peu de combat parce que c'est vrai que le kata, on reste sur quelque chose aussi de virtuel et donc de revenir sur du travail à deux, ça permet aussi justement de se rendre compte si nos techniques sont aussi toujours aussi efficaces, que c'est sur ça qu'on va être jugé aussi sur le kata. C'est pas simplement balancer entre guillemets un coup de pied ou un coup de poing. On est aussi jugé sur le.
Oui, parce que ça se fait pas par hasard. On balance pas un coup de pied, un coup de poing comme ça par hasard.
Non,
voilà, ça
tout
c'est
à
important.
Fait. Ouais. Voilà, c'est ça. On va être jugé quand même sur la technique et sur le fait que ce soit un minimum crédible.
Et justement, quand on passe des ceintures aussi, c'est au niveau des katas, c'est comme ça qu'on est jugé?
Il y a une partie sur les katas, après D'accord. Il va y avoir d'autres parties sur lesquelles on va être jugé, notamment aussi combat.
D'accord. Comment ça se passe? On est devant un jury, c'est ça, de professionnels ou de profs ou d'expérimentés du karaté?
Sur les passages de grade.
Sur les passages de grade?
Oui, sur les passages de grade, normalement, donc on doit avoir dans notre jury des personnes qui doivent avoir normalement au moins un grade au-dessus de nous, ce qui paraît un peu logique.
D'accord.
Et donc, effectivement, on est jugé sur différentes parties pour pouvoir éventuellement avoir ce grade.
Oui, pour pouvoir progresser.
Aussi.
Ouais. Tu disais, on en parlait tout à l'heure, kata, tu as un petit peu voilà, fait le choix de rester dans ce monde-là du kata, même si tu ne laisses pas de côté le combat, mais on a besoin de se professionnaliser dans une branche hein, et de laisser un petit peu l'autre de côté pour se mettre à 100% sur ce qu'on veut faire et pour pouvoir progresser dans ce sens-là.
Oui, alors pour ma part, on va avoir d'autres athlètes hein, qui vont continuer aussi, hein, des fois, cette double pratique, combat, kata, et pour certains, même d'ailleurs, ça leur réussit encore. Donc,
d'accord.
Donc pourquoi pas. Mais effectivement, moi, j'ai fait ce choix de rester un petit peu plus dans cette filière kata.
Avec quand même une petite idée derrière la tête de pouvoir y revenir un jour ou pas du tout?
Sur le combat?
Sur le combat, ouais.
Alors, pas forcément en compétition, je pense pas. Après, l'autre aspect, par exemple, que j'ai pu développer, notamment dans le département de Haute-Vienne, c'est que je fais partie de la commission féminine sportive.
D'accord.
Et ce qui nous permet, alors je suis pas toute seule, on est trois femmes à pouvoir organiser ça. Donc on organise entre environ 2 à 3 stages par an.
Très bien.
Ce qui nous permet notamment, ben là, sur les derniers stages, de l'avoir tourné sur la self-défense. Donc en l'occurrence, une petite filière combat que j'apprécie bien et que j'apprécie surtout d'enseigner.
Ça peut servir dans la rue.
Un peu.
Pour terminer, il nous resterait peu de temps. Jamais tu t'en es servi dans la rue. Tu le déconseilles d'ailleurs parce que ça peut porter préjudice. Il faut faire attention.
Oui, et puis de toute façon, c'est pas vraiment ce qu'on nous apprend. On nous apprend avant tout à.
Mais ça peut servir.
Ça peut effectivement servir. Comme je dis, ça donne des réflexes. Après, non. L'idée, c'est surtout le meilleur des combats, c'est d'apprendre à sortir d'une situation dangereuse parce qu'effectivement, les répercussions peuvent toujours être dramatiques.
Exactement. Surtout quand on a une licence de sport de combat. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Voilà, c'est généralement comme ça qu'on finit l'émission. Si tu as un mot à délivrer à quelqu'un en particulier ou pas, ou en général, le micro est à toi.
Toujours difficile d'avoir le mot de la fin. Simplement en tout cas de persévérer, en tout cas de toujours croire en tout cas en nos passions et en ce qui nous anime dans la vie, que parfois la réussite n'arrive pas tout de suite, mais que finalement, d'autant plus quand elle arrive, on se rappelle pourquoi on s'est bagarré pour tout ça.
Exactement. Merci, ça a été un réel plaisir de t'avoir ici dans les studios. Et puis on va continuer de te suivre. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast, bien sûr sur le site de la radio. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur le DAB+ en Haute-Vienne, donc n'hésitez pas. Merci à tous, passez une bonne soirée et surtout, surtout, soyez heureux.